Bonjour à tous. Si vous aimez la société de minuit et que vous voulez m'aider à pouvoir continuer à sortir des épisodes, sachez qu'en plus des étoiles et des commentaires qui aident beaucoup le podcast à se faire connaître, vous pouvez maintenant aussi m'aider financièrement sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si ça vous intéresse, je vous explique tout dans une vidéo sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La sucrerie. Podcast. On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Tiziana a grandi chez les Témoins de Jéhovah. Presque toute sa famille en fait partie. Et quand elle commence à développer ses dons et communiquer avec l'invisible, un choix s'impose à elle. Car chez les Témoins de Jéhovah, ses croyances sont interdites. Cette histoire s'intitule... Telle mère, telle fille.
Moi, je m'appelle Tiziana, j'ai 24 ans, je suis mariée et j'ai un bébé de 2 ans, une petite fille maintenant. Je suis belge et je pense que vous l'entendrez à mon accent. Je suis vraiment très très contente de faire partie de la société de minuit, moi aussi. De base, je suis témoin de Jéhovah. Et j'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah, des deux côtés. Donc la maman de mon papa était très proche des témoins de Jéhovah, mais n'était pas témoin de Jéhovah. Les frères, les sœurs de mon papa sont témoins. Et ma maman, de son côté, tout le monde est témoin de Jéhovah. Donc j'ai vraiment été encadrée par des familles témoins de Jéhovah. Donc histoire de vous expliquer un peu c'est quoi les témoins. C'est une religion monothéiste. Donc ils croient en un seul Dieu. Pour eux, il n'y a pas la Trinité par exemple. C'est très proche des catholiques, mais il n'y a pas la Trinité. Ils ont une Bible, c'est la même, juste qu'elle est mise en ordre chronologique et pas par ordre alphabétique. Et il y a des endroits dans la Bible où on aurait enlevé le prénom de Dieu en fait. Donc, il y a des endroits où ils ont remis le nom de Dieu. D'ailleurs, que ton royaume vienne et que ton nom soit sanctifié, tu vois. Donc, ils mettent beaucoup d'importance à appeler Dieu par son nom, en fait. Comme moi, je t'appelle Tatiana, on appelle Jéhovah, Jéhovah. Il faut savoir qu'être témoin de Jéhovah, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, t'es témoin de Jéhovah, il n'y a pas de pause. Il y a deux réunions semaine, donc les réunions, c'est comme si tu allais à l'église, en fait. Donc, on va deux fois semaine. Et les réunions, on les prépare à la maison. On a des petits cahiers avec justement, par exemple, la réunion de semaine, on va avoir des versets bibliques à lire et à développer des idées, etc. Donc tu vois, on est vraiment préparé et les réunions, c'est un lieu d'échange. C'est pas un lieu comme à l'église, je sais pas. On m'a dit qu'à l'église, on était souvent assis et on écoutait le prêtre. Mais nous, en fait, on participe. Il y a des moments où on écoute, mais il y a beaucoup de moments où on participe. Donc tout est préparé. On va sortir en prédication. La prédication, tu sais, les témoins de Jéhovah qui viennent le dimanche matin. Quand il y a des gens qui adhèrent à ce qu'on raconte, et ben à ce moment-là, on va retourner et on le prépare aussi. Tout ça, ça prend du temps, on est d'accord. En plus de ça, on a notre texte du jour. Tous les jours, on lit un texte biblique. Puis, on prépare nos réunions, mais on a aussi des études. L'étude individuelle, donc moi, je fais mon étude biblique, par exemple. Mon mari faisait son étude à lui, puis on avait une étude de couple et une étude familiale. Donc, du lundi au dimanche, on est toujours dedans. C'est travail, travail religion en fait. Et on essaye toujours d'être le plus parfait à ce niveau-là. Chez les témoins de Jéhovah, la vie après la mort n'existe pas. Et tout ce qui pourrait s'y rapprocher, c'est du satanisme, du spiritisme, les démons qui s'amusent avec les humains. Mais c'est jamais ta mamie qui vient te dire bonjour, par exemple. Avec le recul, je me dis, mais pourquoi un démon viendrait dans ta petite vie d'être humain, lui qui est si puissant? Mais enfin, pour eux, tout ça, ça n'existe pas, c'est satanique en fait. Et du coup, ils ont très 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 peur de tout ça. Mais malgré tout, il y a toutes sortes de petites histoires qui circulent. Ils sont extrêmement superstitieux. J'aime bien parce qu'à chaque fois, si tu sais, il se passe des choses dans la maison, mais c'est un objet qu'on nous a offert qui est maudit, alors on veut brûler cet objet, mais cet objet ne brûle pas. Il y a ça, des histoires comme ça, j'en ai toujours eu. Il n'y a pas non plus de bénisseur. Il n'y a pas de nettoyeur ni d'énergéticien. Parce que comme c'est des démons, qu'est-ce que l'homme face à un démon ne sait pas le faire partir. Une congrégation de témoins de Jéhovah, c'est plus ou moins 80 personnes. Ça fait beaucoup à gérer. Donc il y a plus ou moins 8, 6 personnes qui vont gérer des groupes de 10 personnes. Qui vont les accompagner tels des bergers, ils disent. De si long que je me souvienne, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition. Je faisais des rêves prémonitoires que j'en parlais à mon papa. Je parlais de ça à mon papa et à ma sœur, beaucoup. Mais bon, c'est mon imagination. Tu sais, apparemment, il y a des preuves scientifiques que c'est pas vrai. Donc, tu sais, en tant qu'enfant, au final, tu n'écoutes plus. Même si je voyais des ombres quand même la nuit, même si je ressentais des présences le jour, je me disais, c'est mon imagination. J'étais la petite fille qui adorait croire aux fées et aux Winx. Donc, je me disais, c'est mon imagination. Et à cette époque-là, ma grand-mère, femme formidable, elle est très très malheureuse. Mon papa est quelqu'un d'adorable, un vrai nounours, mais très sanguin. Et ma maman est hyper sensible et a tendance à beaucoup pleurer. Donc tout ça fait que moi je ressens très très fort tout ça. Financièrement, mes parents ils avaient du mal. Donc je sais que déjà vers 3 ans, je faisais des crises d'angoisse. Et vers plus ou moins 10 ans, j'ai arraché tous mes cheveux de ma tête. Parce que tout ça était là, parce que je voyais des choses que je ne comprenais pas et du coup je pensais ne pas être normale, parce que j'avais pas d'amis à l'école, parce que j'étais témoin de Jéhovah, donc j'avais pas d'amis à l'école. Tu sais, quand on est témoin de Jéhovah, on fait pas les anniversaires. Automatiquement, j'expliquais pourquoi je faisais pas les anniversaires, pourquoi je fêtais pas Noël, j'étais différente. Mais chez les témoins de Jéhovah, j'étais différente aussi, de par mes rêves, de par ma façon d'être en fait. Donc j'avais pas d'amis chez les témoins de Jéhovah non plus. Je me sentais vraiment seule. Donc, malgré que je me rends pas compte de tout ça, je sais que ce qui se passe dans mes rêves, ça arrive. Toujours. Et à l'école, malgré que j'étais harcelée, eh bien, les camarades qui me tapaient dessus pourtant, ils venaient me demander des conseils parce que parfois, je leur disais pas tout de suite, mais j'avais rêvé d'eux. Je savais qu'il y avait telle ou telle chose qui allait leur arriver, ou je voyais très clair dans une situation. Quand il s'agissait d'avoir de l'aide, Tiziana était toujours la bonne poire pour recevoir de l'aide. Et puis, même si je sais que je suis trop gentille, je me dis qu'au moins je suis gentille et que je donne ce que j'ai à donner. Puis, vers mes 8-9 ans, on déménage. Parce que mes parents voulaient faire une boulangerie et cette maison-là était très grande, donc on déménage ici. Dans ce qui était l'ancienne boucherie, parce que c'est une boucherie avant d'être une boulangerie, il y avait toutes sortes de croix, il y avait une ambiance particulière. Je vois des ombres, j'entends des rires, j'entends des pleurs. Il y a toujours du monde dans cette maison. Là, jusque-là, je me dis, c'est mon imagination. Et vers mes 13 ans, là, je commence à me rendre compte qu'en fait, oui, il se passe vraiment des choses, parce que quand je monte les escaliers, j'entends qu'on me suit dans les escaliers, surtout quand je suis toute seule. Donc genre, je monte, et j'entends le craquement de l'escalier derrière moi. Donc ma technique, à un moment, tellement c'était anxiogène, je courais dans les escaliers pour monter le plus vite possible en haut, et j'essaie de rationaliser, tu vois. Et puis, un jour, j'ai vraiment vu quelque chose. Je suis là dans la chambre avec ma sœur, on parlait, et puis tout d'un coup, je me sens pas bien. Je sens vraiment qu'on me regarde. Ma sœur était sur le mur près de la porte, en face t'as la fenêtre, et moi mon lit il était du côté droit. Sur le mur là, je me tourne la tête, et là je vois deux grands yeux dans le noir. J'ai l'impression que ce regard il devient méchant. Donc je me fige et là, j'hurle. Je dis « allume la lumière » parce que je sentais cette peur en moi tellement forte, tout mon être se paralyser. Ma sœur allume la lumière et là, elle me voit blanche et elle a compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Et j'ai eu du mal à lui expliquer, je me rappelle, tellement je bégayais, tellement j'étais pas bien. Et comme avec les histoires qu'on entendait chez les témoins de Jéhovah qui avaient toujours un objet, on a cherché, on a mené l'enquête. Et je me rends compte qu'une petite fille m'avait offert un petit porte-clés avec un nounours en forme de canard. Et cette jeune fille, elle faisait du théâtre, mais je l'avais dans plusieurs cours avec moi, dont le solfège. Pour une fois qu'on m'offre quelque chose, hein, en vérité, parce que j'avais pas d'amis du coup. Mais j'ai brûlé ce porte-clés. J'avais tellement peur, ma sœur l'a mis dans notre poêle au feu de bois, dans une boîte à mouchoirs parce qu'on n'osait pas dire l'histoire à mes parents. Et en fait, c'était le seul lien qu'il y avait possible avec des démons. Je comprenais pas pourquoi il y avait un démon qui me suivait dans ma maison. Pourquoi moi, j'avais rien fait, je regardais pas de films d'horreur, j'étais la parfaite petite chrétienne. Et encore, cette idée va me poursuivre longtemps parce que je faisais tout pour tout bien faire, tu vois. Je comprenais pas où était le lien. Et comme chez les témoins de Jéhovah, il y avait toujours cette idée de lien, j'ai cherché où. Qu'est-ce qui m'a amené ces démons à la maison ? Donc on a brûlé cette peluche. Et d'ailleurs, on était tellement superstitieux que maman me disait toujours « N'acceptez pas les dessins de vos copains, n'acceptez pas... » Ouais, on avait ça, cet apprentissage-là, tu vois. Mais bon, malgré tout, je me dis, pour une fois que j'ai une copine, j'avais accepté ce canard. Je pense que la porte, elle s'est fermée après ça, je pensais. J'étais tellement sûre que c'était ça que j'ai plus rien eu pendant un certain temps. Jusqu'à ce que j'ai plus ou moins 17 ans. J'ai fait des études de coiffure, mais mon papy était gravement malade. Il a eu la maladie de Charcot. C'est une maladie où tes nerfs et tes muscles ne répondent plus et c'est un peu comme... C'est pas qu'ils vont fondre, mais presque en fait. Donc mon papy a très vite été incapable de marcher. Mon papy a été très vite incapable de parler, de manger. Il faut savoir que ça, là aussi, j'ai su que j'avais fait un rêve prémonitoire que mon papy allait être pas bien. Et j'avais senti à l'odeur de la maison que mon papy était gravement malade. Donc je le savais. Mais malgré tout, quand on t'annonce que voilà, papy a fait des examens et que papy est gravement malade, ça fait un choc. Et moi, mes grands-parents, c'est quelque chose... On s'aime tellement. On s'aime tellement. À côté de ça, j'avais des problèmes de santé. J'étais harcelée à l'école. Bref, dépression. Je pense que quand on est sensible, à chaque fois qu'on a des dépressions, des burn-out, eh bien la porte, elle s'ouvre. Donc, vers mes 17 ans, je recommence à avoir des choses, à réentendre des pas dans ma chambre. Mais je n'entends pas pleurer, j'entends pas rire. Juste, il y a des pas. Je sens une présence. Et de fil en aiguille, pendant longtemps, parce que ça, ce que je te dis là, ça a duré bien un an, deux ans, j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil. Et j'en ai fait tellement que je me rappelle plus de ma première paralysie. Par contre, je sais comment ça se passait. C'est-à-dire que donc je dors, comme tout le monde, Et tout d'un coup, je sentais qu'on s'appuyait sur moi. Donc vraiment, comme une plaque, vraiment contre moi. Et je ressentais que c'était quelqu'un. Et du coup, je n'arrivais plus à peine à respirer, j'arrivais à peine à bouger. Et la seule chose que je faisais, parce que du coup j'avais peur, je comprenais pas, j'essayais de crier le nom de Dieu. Et j'essayais de bouger mes doigts pour revenir à moi, pour essayer de m'ancrer peut-être quelque part. Et quand c'était pas ça, je faisais des rêves en fait, où je rentrais dans des pièces et je rencontrais une silhouette noire qui fonçait sur moi. Et j'avais cette sensation de peur que j'ai déjà décrite, tu sais, brûlure, picotement, pas bien, et j'étais paralysée, et je me réveillais. Et en fait, à un moment, ça, c'était devenu tellement fort que je faisais des convulsions dans mes rêves. Il y a eu une fois, je me rappelle, j'avais fait un rêve comme ça, où je rentrais dans les pièces qui étaient ici, dans lesquelles je vis aujourd'hui, en fait, qui étaient en travaux, qui étaient un peu à l'abandon, et que cette âme me sautait dessus. Et ce matin-là, je me suis réveillée tellement endolorie que juste le fait, tu sais, quand tu es à l'école, tu recules ta chaise, tu lèves ta jambe pour passer au-dessus de ton sac un peu, tu vois. Juste ça, c'était la douleur, quoi. Je bougeais ma jambe, j'avais les larmes. Parce que ça a duré tellement longtemps, des situations ainsi. Et quand ça m'arrivait à ce point-là, j'ai dit à mes parents, je vais dormir chez ma grand-mère. C'est à plus ou moins une demi-heure de voiture. Et ma grand-mère, elle a eu la gentillesse de m'amener à l'école tous les jours. Et là, j'ai pu dormir. Donc c'était pas moi le problème, il y avait bien quelque chose dans ma maison, mais mes parents ne me croyaient pas. À part faire des prières, ça a duré 2 ans de prière, je me rappelle, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des pas dans ma chambre, c'est rien passé quoi. Et là, un jour, ma sœur, elle m'appelle vers juin comme ça, fin de l'année scolaire, elle était en examen, et ma sœur, quand elle étudie, tu sais, elle était dans la chambre d'à côté, et elle étalait ses feuilles tout partout dans sa chambre. Donc impossible de se lever en pleine nuit parce que franchement ce serait tollé quoi, il y avait des fards chemises, des fards, des plastiques, tout. Et elle me téléphone, elle me dit écoute papa et maman ils te croient. Je dis comment ça papa et maman me croient? Elle dit oui, ce dimanche matin ils ont entendu des bruits de pas dans ta chambre et ils ont entendu les armoires s'ouvrir et se fermer. Elle dit on avait l'impression qu'ils te cherchaient. Aujourd'hui on va en reparler à mes parents, ils vont pas me croire, ils vont me dire que non. Pourtant à ce moment-là ils m'ont cru. Et à part des prières, en fait, rien n'a jamais changé à la situation. Il a fallu du temps, en fait. Vraiment du temps pour que j'arrive comme à fermer la porte moi-même, à prendre de la distance par rapport à tout ça. On est parti un mois en Italie. Et quand on est revenu, je n'ai plus dormi dans ma chambre. Mais j'ai continué à faire des paralysies quand même du sommeil de ce moment-là jusqu'à mon mariage. Donc du coup, je me marie, je déménage, puis j'ai accouché. En même temps que j'accouche, je suis revenue vivre chez mes parents parce que mon mari a un projet construction. Bon, moi aussi du coup, mais c'est plutôt son projet que mon projet. Moi, c'est plutôt pour lui faire plaisir. On a acheté un terrain et le temps de mettre à place pour commencer, financer le prêt à la banque pour faire tout simplement la construction, ben, on savait pas payer un loyer avec un seul salaire. Parce qu'à ce moment-là, mon mari m'a dit jusqu'à plus ou moins c'est 1 an et demi, 2 ans, tu ne travailles pas, tu t'occupes de bébé. Donc on est retourné vivre chez mes parents. Puisque du coup, postpartum oblige, revenir vivre chez ses parents, c'est vraiment pas facile. Je vivais que dans ma chambre. Et ma fille avait sa petite chambre et la salle de bain. Mais c'est tout petit. Donc tenir une maison, faire à manger et essayer que ce soit propre, j'ai fait un burn-out. Je n'arrêtais pas de faire le ménage, de m'occuper de bébé. Je me suis rendu compte quand elle avait quoi, presque 1 an, que je n'avais plus écouté une musique que j'aimais. Pour te dire tellement j'étais dans mon truc, puis mes parents aimaient que ce soit nickel. Et c'était jamais nickel, sincèrement. Mon mari travaillait tout le temps, parce que du coup, il voulait qu'on s'en sorte, qu'on aille ailleurs. Il voulait qu'on puisse construire notre maison le plus vite, donc il travaillait loin parce qu'il est maçon. Donc il se levait à 5h30 du matin pour être à l'heure au chantier. Et puis il faisait des heures sup chez des clients à lui. Et du coup, il revenait, il était minuit, parfois 1h. Et si j'avais de la chance, il revenait à 23h. Donc je vivais dans une petite pièce avec un bébé qui ne voyait jamais son père. Quand son papa était là, elle ne voulait juste pas être avec son père parce qu'elle ne le connaissait pas. Enfin bref, j'étais pas bien. Et du coup, là, j'ai recommencé à me réouvrir quelque part. Au début, c'était que énergétique. C'est-à-dire que je ressentais beaucoup de vibrations, des énergies en général. Je faisais des rêves assez explicites et prémonitoires. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça et que chez les témoins de Jéhovah, c'est interdit. J'avais rien demandé à personne. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille était comme moi. Arrivé un soir, mon mari travaillait. Ma fille allait se coucher très tôt et elle a fait très tôt ses nuits, donc elle dormait déjà vers 17h30-18h. Et moi, j'étais en train de lisser mes cheveux. Et là, vous voyez les babyphones quand on parle ? Il y a le son et la lumière monte comme ça en accordéon avec le son. Plus c'est fort et plus il y a de lumière. Et là, j'entends qu'on ouvre la porte de la chambre de mon bébé. Donc ça s'allume au babyphone. Et j'entends une voix masculine, sans forcément comprendre ce qui se dit. Et ma fille s'est réveillée et répondait. Et ça faisait vraiment une interaction. Donc moi, je me dis toute contente, chouette, mon mari, il est revenu. J'ouvre la porte de la chambre de ma fille et il n'y avait personne. Et je me suis dit, ok, ma fille voit des trucs. Si je veux aider ma fille, en fait, il va falloir que je me comprenne moi-même pour pouvoir plus tard aider ma fille. Et me dire que peut-être il y a bien quelque chose. Parce que moi, j'aurais peut-être ouvert une porte, désobéi, peut-être je suis pas une si bonne chrétienne que ça, mais ma fille, c'est pas possible. Et tu sais, il y a ce verset biblique, donc je vais le citer, attends, je le prends. Ça va être important pour ma façon de pratiquer et d'être par la suite. On ne devra trouver chez toi personne qui fasse brûler son fils ou sa fille, qui exerce la divination, qui pratique la magie, qui cherche les présages, qui pratique la sorcellerie, qui jette des sorts aux autres ou qui consulte un médium. Celui qui fait ces choses est détestable pour Jéhovah. Un autre qui dit brièvement qu'en Lévitique, que les hommes et les femmes qui sont médiums ou diseurs de bonne aventure doivent absolument être mis à mort et on les lapidera, car ils seront responsables de leur mort. C'est clair, donc moi je me suis dit, moi j'appellerai personne et je ne lirai jamais l'avenir aux gens. Par contre, moi, dans ma dépression et dans cette idée de me comprendre, je m'achète mon premier oracle. Donc, c'est le petit oracle intuitif d'Amanda Wild, pour les curieux. J'achète cet oracle en pleurant. Jéhovah, pardonne-moi, vraiment, je veux pas faire les choses mal. Je te promets que je ne lirai pas l'avenir. J'appellerai pas les morts, mais il faut que je me comprenne. Je suis tout comme ça depuis toujours. Vraiment, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, j'achète cet oracle vraiment mal. Et en fait, il m'a fait vraiment du bien, cet oracle. Je pense que je suis sortie de cette dépression-là grâce à ça, à ces petits messages que je me tirais tous les jours. Et en fait, en tirant, je me rendais compte que je comprenais plein de choses sur ma situation, sur mon époux. Même parfois, je tirais pour comprendre pourquoi ma fille était comme ceci ou comme cela. Et en fait, ça m'apportait toujours des réponses très douces et très claires, au point que je me prends de passion. Et comme je peux en parler à personne, je crée un Instagram. J'en ai parlé à mon mari quand même. Il m'a dit, c'est logique en fait, parce que toi, quand tu me masses, je sens vraiment que tu arrives à rentrer en moi et enlever les douleurs. Il dit, t'as jamais été comme tout le monde, donc si c'est dans l'optique de t'aider, essaye. Et donc, je demande aux gens de tirer pour eux, mais dans l'idée du bien-être, pas pour lire l'avenir. Et je leur propose d'offrir un tirage. Et là, j'ai tiré, je dois avoir fait une dizaine de tirages. Et en fait, je connaissais pas les personnes. Elle m'a envoyé un message avec le vocal, parce que je me connectais au son de la voix. Et je me filmais pendant une heure, et je tirais pour les gens. Eh bien, j'ai dit des trucs, je ne pouvais pas savoir, des maladies que les personnes elles avaient, des situations familiales. Et en fait, je me suis dit, ok, je suis vraiment douée pour ça. Et j'avais vraiment cette impression qu'au fond de moi, j'avais ouvert un tiroir, et que je savais faire ça depuis toujours. Ça a vraiment été une révélation. Mais j'étais vraiment dans cette optique de j'obéis quand même au commandement biblique. J'essaye d'être moi, de me comprendre pour ma fille. Mais en même temps, je suis la bonne petite témoin de Jéhovah. Donc je faisais mon texte du jour comme j'expliquais au début du podcast. J'allais à la salle. Je prêchais pas parce qu'en fait, les gens m'énervaient. De fil en aiguille, j'ai plus trop été à la réunion. Je suis vraiment restée à la limite de ce que je pouvais pas faire. J'en pleurais souvent et je disais à Dieu... Je n'ai jamais regardé un film d'horreur. Je n'ai jamais lu une histoire où il y avait des fantômes, des démons, des trucs. Je suis restée loin de tout ça. Je n'ai jamais appelé tout ça. Pourquoi je suis comme ça? Je dois comprendre pourquoi je suis comme ça. Et c'était vraiment ça ma démarche. Je savais que c'était mal, mais je devais me comprendre. Du coup, quand j'ai commencé à m'ouvrir, j'ai eu plein de visites. J'avais trop de visites. Et j'étais pas bien. Et mon papy, en fait, a été un... qui était là pour me protéger. Donc c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelqu'un, je sentais un lien de famille. Quand je sentais qu'il était là, je m'assieds à la table et j'essayais d'avoir une conversation avec lui. Mon papy, il est resté distant parce qu'il a été témoin de Jéhovah aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait après, il a un peu passé la relève à ma nona.
Sa nona,
est en fait sa grand-mère. Du côté de son papa, elle est italienne, et du coup, ils disent Nono pour le grand-père et Nona pour la grand-mère. Donc, celle dont elle nous parle actuellement, c'est sa grand-mère du côté paternel.
Ma Nona, il faut savoir que je lui en voulais. Quand j'étais enfant, elle est repartie vivre en Italie. Et ma Nona, c'était le point d'ancrage de toute la famille. Elle était très distante, ma Nona. Mais c'est parce qu'elle a une vie très difficile, en fait. Mais du coup, en fait, c'est logique que c'est pas ma Nona qui est venue en première, parce que j'y aurais pas cru, je l'aurais raboulée et je me serais fermée. La première fois où j'ai eu un contact avec ma Nona, c'est simple, j'avais très mal au dos ce jour-là, j'avais fait beaucoup de ménage. Et j'ai entendu sa voix dans mon esprit me dire « Allonge-toi par terre et imagine que tu as des racines et que ta douleur retourne au sol. » J'ai compris que c'était elle. Elle s'était pas présentée. J'ai compris. Et puis par la suite, j'ai dit « Pourquoi tu viens me voir ?» Un peu fâchée, tu vois. Et elle m'a expliqué son point de vue à elle sur sa vie. Et du coup, je peux pas expliquer parce que c'est vraiment compliqué. Mais j'ai su que c'était elle. Et c'est elle qui c'est elle qui me guide, en fait. Et c'est un peu mes tirages de cartes et ma Nona qui m'ont guidée vers la sortie des témoins de Jéhovah. Parce que tu sais, chez les témoins de Jéhovah, c'est Dieu et Satan. C'est le bien et le mal. Et dans la salle du royaume, grâce à l'Esprit Saint de Dieu, un démon ne peut pas rentrer dans la salle du royaume. Et un jour, comme ça, je suis à la salle des témoins de Jéhovah et j'ai la sensation de sentir ma Nona. J'ai ma fille sur mes genoux qui, elle, voit ma Nona depuis toute petite et elle lui fait coucou et tout. Et là, elle regarde ma Nona et elle lui fait coucou. Et elle me fait « Maman, Nona !» Alors je dis « Oui, je pense que oui. » Et dans ma tête, ma Nona me dit « Ok, si je suis un démon, est-ce que je peux rentrer ?»« Si vraiment Dieu, c'est Dieu. » Je dis « Non. » Je sens ma Nona se lever. Moi, j'étais mise tout au fond pour pas déranger, comme j'avais un bébé. Et elle va tout devant là où il y avait mon papa. Et tout le long qu'elle marche pour aller voir mon papa, ma petite fille a suivi ma Nona du regard. Et donc, elle va, elle revient, et elle me dit « il n'a pas changé ». Puis elle me fait comme ça « bon, je m'en vais parce que je n'aime pas être ici ». Et elle est partie. Et elle lui a fait signe. Donc je me suis dit « ce que je viens de vivre, c'est vraiment passé ». Ma fille a regardé. Parce qu'avant, je me serais dit que c'était mon imagination. Et donc, de tirage en tirage, et grâce à ma Nona, un peu, ma vision de la vie, elle a changé. J'ai rien dit à mes parents, juste j'allais plus à la salle des témoins de Jéhovah, j'allais plus à la réunion, et je m'abstenais, quoi. Je ne lisais même plus, je dois t'avouer, la Bible. Parce que, en fait, j'avais eu tellement de preuves que c'était pas vrai, que je voyais pas l'intérêt. Par contre, je savais que si un jour, je décidais de ne plus être témoin de Jéhovah, il y aurait des conséquences. Mais, n'étant pas une menteuse, j'ai dit à mes parents que je n'y croyais plus. J'ai pas eu la force de leur dire que je tirais les cartes. Parce que pour eux, c'est tellement le mal incarné que je voulais pas leur faire de mal, en fait. Je leur ai juste dit, écoutez, c'est plus mes convictions. Mais ils m'ont pas laissé expliquer mes convictions. Ils m'ont pas laissé parler, ils ont été très en colère et ils m'ont dit, ou tu reprends une étude biblique et tu te fais encadrer, ou tu remets ta lettre et tu n'es plus témoin de Jéhovah. Quand on n'est plus témoin de Jéhovah, il y a deux cas de figure pour ne plus l'être. Ou alors tu as un conseil disciplinaire, donc par exemple tu as enfreint une règle importante comme l'adultère, et tu ne te repens pas, donc tu es excommunié. Tu ne fais plus partie de la communauté des témoins de Jéhovah, c'est ça que ça veut dire. Ou tu remets une lettre comme quoi que tu ne veux plus être témoin de Jéhovah. Donc comme moi je ne me sentais pas d'avoir plus de pression là-dessus que ce que j'en avais déjà, j'ai décidé de remettre ma lettre. Parce que je ne voulais plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre et je ne voulais pas mentir. Ce qui se passait autour de moi, ça se passait vraiment. J'étais fascinée de pouvoir aider les gens avec mes cartes et je voulais pas m'arrêter parce que vraiment j'ai fait beaucoup de bien et j'espère en faire encore longtemps. Donc j'ai remis ma lettre. Et à partir du moment où j'ai pu être témoin de Jéhovah, du coup, j'ai plus de contact avec mon père, j'ai plus de contact avec ma mère, j'ai plus de contact avec ma sœur, mes sœurs, plus de contact avec ma mamie et ni avec mon tonton qui lui m'a carrément bloqué de partout. C'est dur. C'est dur parce que vraiment, je les aime. Donc, c'est difficile. Franchement, c'est le plus dur. Il y a une chose qui est importante que je précise. Je n'ai pas quitté cette religion uniquement pour ça. Il faut savoir qu'il y avait un grand mélange de plein de choses, d'un ras-le-bol de plein de choses qui me déplaisaient très fortement dans cette religion, dans la mentalité de cette religion, parce que c'est une très belle religion, Mais c'est une religion, je pense, à dérive sectaire, c'est-à-dire que les gens, des fois, vont trop loin. Et il y a, en gros, pour juste donner deux, trois exemples, cette idée, c'est comme un tout petit village, et tout le monde sait tout sur tout le monde, et tout le monde a son avis sur tout le monde, et tout le monde le fait parce qu'ils aiment tellement l'autre, qu'ils veulent que l'autre aille au paradis, qu'il y a tellement de choses qui se passent tout autour, une lourdeur, en fait. Et ça, c'est un exemple parmi tout ce qui m'a poussé à partir. Donc, c'est pas ça uniquement qui m'a fait quitter cette religion. C'est un ensemble de choses. Ça, c'était vraiment important que je le dise. Comme j'ai fermé cette porte des témoins de Jéhovah que je ne pense ne pas réouvrir sincèrement, j'ai l'impression que c'est encore plus fort d'avoir accepté ce que je suis. C'est-à-dire que je peux me balader dans la rue et en apercevoir 5 des âmes. J'ai des journées comme ça où c'est tout le temps. Et du coup, comment dire, j'ai l'impression que j'avais besoin de savoir que c'était vrai. Comme on a décidé de déménager, que je parle plus à mes parents, que c'était compliqué, on va aménager une caravane résidentielle sur notre terrain constructible, en attendant de bâtir. Donc on la rénove un peu, on a refait les fauteuils, et le cousin de mon papa, qui n'est pas témoin de Jéhovah, qui fait de la couture, a gentiment demandé de recoudre ses fauteuils. Donc on va au magasin de tissus, et là, en passant, je ressens bien qu'il y a une petite âme cachée derrière les présentoirs à roulettes avec tous les tissus différents. Je ressens bien qu'il y a quelque chose, mais c'est pas le moment, donc je m'attarde pas, je ferme la porte entre guillemets. Mais ma fille, non. Elle dit à mon cousin, à quelqu'un. Donc je sais qu'il y a vraiment quelqu'un, mais ça l'intrigue quand même vraiment beaucoup à ma fille. Donc qu'est-ce qu'elle fait de ses petites mains et de sa force, elle pousse le présentoir à roulettes et elle se retrouve derrière. J'avais pas vu. Je cherche après ma fille, derrière, et elle parle à cette petite fille, c'était une petite fille. Elle me fait « Ah, quelqu'un !» J'ai dit « Oui, ma chérie, il y a quelqu'un. » Mais on est au magasin, et je t'ai expliqué que devant les gens, tu ne dis rien pour pas te faire paraître bizarre. Mais il y a quelqu'un. Alors elle regarde la petite fille, elle lui fait « Viens !» J'ai dit « Ah non, je veux pas avoir à la maison, tu vas pas me faire le coup d'amener tout le monde à la maison, elle vient pas. » Mais si, elle est venue. C'était cocasse, parce qu'au départ, je me dis, bon, peut-être qu'elle n'est pas vraiment venue. Mais en fait, Abigail, ma fille, a commencé à lui dire bonjour tous les matins, à lui dire au revoir toutes les nuits, à jouer, elle a présenté ses poupées à cette petite fille, elle a présenté son papa, donc devant son père, elle fait « Et mon papa ?» Tu sais, vraiment comme si elle parle à quelqu'un. Et mon mari, il s'est dit « Ah oui, d'accord, en fait, elle parle vraiment à quelqu'un. » On entendait du bruit dans sa chambre avec le babyphone, hein. Et des fois même, elle se disputait avec. Tu sais, comme les enfants, « Non, c'est tout! Non !» Tu sais, vraiment une relation fusionnelle, mais je sentais qu'il y avait deux âmes avec la fille. Donc, elle était venue avec sa famille. Et en fait, à un moment, c'était tel que c'était tous les jours que ça m'est... Enfin, ça me rendait bizarre de voir ma fille entretenir une amitié avec quelque chose qui n'est pas vivant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aider cette famille à passer de l'autre côté. Parce que de temps en temps, je sentais le frère, de temps en temps, je sentais la maman. Donc un soir, comme ça, après qu'elle soit partie coucher, j'ai dit à tout le monde, vous venez dans le salon. Et j'ai parlé avec eux, et j'ai compris qu'en fait, c'est une famille minière. Donc en Wallonie, tout le Borinage, c'est des mines. On repose sur des mines. Si un jour ça s'écroule, on est dans le caca. Parce que vraiment, on est enseveli. Et j'ai cette idée que le petit garçon recherche son papa, mais qui ne trouve pas son papa. Et que, en fait, si tu veux, le papa était à la mine avec le petit garçon, il a senti la chose arriver, la catastrophe, il a dit à son fils, « Va vite appeler tes sœurs, ta sœur et ta maman, pour qu'elles se mettent à l'abri. » Qui travaillait dans une arrière-boutique de tissus. Sûrement pour ça qu'elle était là, parce que c'était son seul repère à cette petite fille. Le petit garçon était sur le chemin quand tout s'est écroulé. Et le flash que j'ai eu, c'est que le garçon était... voilà, il a fait comme une commotion. Le bâtiment de couture s'est écroulé. Et en fait, il y avait le feu, il y avait de l'eau, il y avait les deux. La petite fille a été noyée, la maman a été brûlée. La maman était rarement là parce qu'elle cherchait après son père. Donc là, pour une fois, j'ai appelé. J'ai appelé le papa. Donc j'ai essayé de trouver son nom. C'est très dur de trouver le nom d'un défunt. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise dans un état méditatif. Du coup, j'avais allumé de la sauge et j'avais une pierre sur moi de protection. Et ça a duré un moment, et puis un moment, en fait, il n'était pas content que je le retrouve. Je sais plus vraiment pourquoi, mais il est arrivé en mode « Non, m'appelle pas !» Tu sais, et du coup, j'ai pris peur. Mais quand il a vu les membres de sa famille, peut-être que lui était resté dans sa mort. Je pense que c'était ça. Il y a eu un moment de joie, La mère qui, de base, ne m'aimait pas, elle laissait ses enfants là parce que comme ça, elle savait qu'ils étaient là, mais elle cherchait après son mari. Et elle m'a dit merci, ils sont passés. Et quand j'ai vu cette joie dans la famille de se retrouver, pouah, j'ai encore des frissons. Tu vois, c'est un trésor d'être comme ça, en fait. Le lendemain, ma fille, elle n'a plus vu cette petite fille. Mais j'ai fait des recherches. Et en effet, sur tout autour de Wamuel, il y a eu un effondrement de terrain minier. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai quand même pas mal de preuves que c'était vrai. Et puis ensuite, je parlais avec... J'étais chez Donato, le cousin que j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous aide, qui est très gentil, qui n'est pas témoin, et chez sa femme. Et la maman de son épouse était là. Et donc, on commence à parler de la vie de ma mère à propos de tout ça. Oui, mais ma fille parle aux démons. Ma fille, elle fait honte à la famille parce qu'elle renie un peu nos croyances, en bref, tout ça. Et je lui explique que, voilà, moi, je n'appelle personne, mais que quand ils se présentent à moi qu'ils ont besoin d'aide, je ne peux pas faire autrement que de les écouter et de leur venir en aide. Donc chacun commence à raconter un peu ses histoires. Et là, la maman dit, moi ça fait plus ou moins 10 ans que je fais des paralysies du sommeil. Elle dit ça, j'attrape froid. Mais froid, j'ai jamais eu froid comme ça. Je savais à peine parler comme il faut, je tremblais. Anza, elle voit que j'ai froid, elle m'apporte une couverture. Mais là, je ressens une femme. Je visualise des cheveux longs blonds et des yeux clairs, clairs comme bleu-gris comme ça. Mais c'est des Siciliens. Donc face à moi, j'ai une famille avec des yeux foncés, des cheveux foncés, et si la maman a un peu les yeux clairs quand même, mais j'aurais pas deviné comme ça, tu vois. Et je me dis, écoute, je vais quand même essayer de lui dire. Donc je prends mon courage à deux mains, et je dis, écoute, je sens quelqu'un. Elle se pétrifie, elle me dit, elle a froid cette personne. Tu vois que je grelotte, tu touches comme j'ai froid, donc elle prend ma main. Elle me dit, oui, tu as froid. Elle parle en Sicilien à sa femme, je comprends pas tout de suite ça. Je dis, c'est une femme avec des cheveux blonds et des yeux très clairs. Boum. Elle me dit, il y a 10 ans, ma sœur est morte. Elle me dit, tu me décris ma sœur. Donc là, elle me croit, elle. Surtout que j'ai dit qu'elle avait très très froid. Elle parlait en sicilien, cette dame-là. Moi, je parle pas sicilien. Donc, elle m'envoie des flashs. Elle m'envoie ces flashs que elle, pour avoir une dispute avec elle, c'était la galère. C'était une femme vraiment gentille, qui aimait que toute la famille s'entende bien. Donc je dis, elle me dit, oui, c'est vraiment ma sœur. Je dis, mais actuellement, ta sœur, apparemment... Elle n'est pas en paix parce qu'il y a un conflit très violent dans la famille, au point de s'être souhaité la mort. Elle me dit oui, il y a un conflit entre mes frères et sœurs. Donc je me dis ok, donc là je suis en train de dire des choses qui sont quand même vraies. Donc je lui explique qu'elle voudrait qu'elle fasse la paix, du moins qu'ils s'accordent leur pardon même s'ils ne sont plus tous vivants, et là elle passera de l'autre côté. Quand après elle est partie, la maman d'Enza, eh bien... J'ai commencé à avoir de moins en moins froid et à aller mieux. Et là, Enza me dit, en fait, ma mère m'a dit que pendant cette paralysie du sommeil, elle sentait quelqu'un près de son lit et qu'elle grelottait de froid à chaque fois. Alors là, je me suis dit, ok, Tiziana, il y a vraiment quelque chose pour toi de ce côté-là. Tu dis vraiment la vérité. Ben, aujourd'hui, j'ai plus peur, clairement. J'ai plus peur parce qu'autant au départ, j'avais cette peur face aux esprits, face aux démons, face à tout ce que tu veux, comment tu les appelles. Aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai eu que des expériences positives. Comme chez les êtres humains, il y a des fois des gentils, des fois des méchants. Mais je leur dis tout simplement que je ne veux pas m'occuper d'eux, qu'ils peuvent partir. Et ils partent. D'ailleurs, ma fille aujourd'hui, quand une âme rentre dans sa chambre, si elle ne veut pas la recevoir, je lui ai appris à le faire partir. Elle fait un petit signe de protection qui m'est propre avec ses mains et elle dit partir. Aujourd'hui, il y a toujours du monde dans la chambre de ma fille. C'est des enfants qui font la fiesta quasiment tous les soirs. D'ailleurs, elle est contente de dormir. Elle demande, elle est comme ça et on entend vraiment qu'elle papote et qu'elle joue et tout. Et ça... Mais ça dure quoi ? Le temps qu'elle s'endorme et puis c'est tout. Mais c'est plus constamment pendant la journée et tout ça parce que j'étais dans sa chambre. Je leur ai expliqué que c'est une enfant qui doit avoir une vie normale et qu'elle ne pourrait pas avoir des contacts avec des gens physiques et des gens invisibles en même temps. Et que pour son bien, ce qui se passe à la maison se passe à la maison et le reste, on la laisse tranquille. La religion, il n'y a personne qui a la vérité. Tu sais, les témoins de Jéhovah disent beaucoup « j'ai la vérité, c'est la vérité, dans la vérité ». Ils nomment leur religion en « la vérité ». Et en fait, c'est quelque chose que les musulmans vont faire, les catholiques, enfin vraiment, c'est quelque chose que toutes les religions font, mais je pense que personne n'a la vérité. Il y a des très bonnes choses un peu partout, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses un peu partout, et la vérité, en soi, je pense qu'elle n'existe pas.
et qu'on doit avancer avec ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer et aller vers le mieux en fait, donner juste le meilleur de nous-mêmes, le plus d'amour qu'on peut donner. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe après la mort et je pense qu'on le saura que quand on mourra. Et puis on reviendra certainement encore dans une vie ici sur Terre et à ce moment-là on l'aura oublié, mais c'est comme ça.
Pour conclure, je dirais que je suis assez fière du chemin que j'ai parcouru. J'ai envie de vous dire que c'est pas aussi méchant que tout ce qu'on peut entendre comme histoire. C'est vrai qu'il y a parfois des âmes plus méchantes, mais si vous laissez la peur vous envahir, certes elles vont s'accrocher. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'en débarrasser. Après, ça fait pas des années non plus que je vis tout ça, mais je pense que bien souvent, c'est super positif. Et j'aimerais conclure vraiment en disant ceci. Que ce soit n'importe quelle croyance ou religion, il faut qu'elle vous rende heureux. Si elle vous met de la pression, si elle vous met de la peur, si elle vous met de la tristesse, c'est pas normal. Parce que nos croyances, elles sont là pour notre bonheur, pour nous avancer dans la vie. Il est important que personne ne vous dise quoi croire, quoi faire, quoi penser. C'est seulement vous qui décidez ce que vous avez envie de croire, pourquoi vous le croyez, pourquoi ça fait sens pour vous. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est à vous de le décider. C'est ce libre arbitre dans la religion est super important. Il faut que vous arriviez à faire le tri de ce qui vous appartient ou pas. Vraiment, j'ai envie, à travers ce témoignage, vous livrer ceci. Soyez heureux. Une croyance, elle est là pour vous faire avancer et pour vous rendre heureux. Voilà, je vous souhaite le meilleur.
Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.